Et c'est quelque chose qu'on essaye de toutes sortes de façons de nous dire, il faut avoir de la volonté, il faut être capable de faire quelque chose, d'entreprendre et puis de le mener à terme. En fait, la volonté, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que, en tout premier lieu, je pense dans nos gènes, dans ce qu'on a dans nos corps, il y a la volonté de survie. Maintenant, ce n'est pas tellement important parce qu'on est dans une, comment dirais-je, dans un environnement qui n'est pas aussi hostile qu'il y a quelques siècles. Aujourd'hui, la volonté de survie, il y a à peu près tout le monde qui s'en occupe pour nous, des médecins, nos parents, et puis tout ça. Tandis qu'à un moment donné, c'était très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va maintenant plutôt mettre comme emphase? C'est plutôt une volonté de réussir. On nous apprend qu'on doit réussir, qu'on doit avoir la volonté de réussir. Donc, la volonté, on voit que c'est quelque chose qui est important et qui est là. Maintenant, lorsqu'on parle de volonté, tant que ce sont nos propres affaires, ça va. On laisse tomber les choses, on ne les continue pas, ça va. Mais lorsqu'on arrive qu'on va exercer notre volonté en rapport avec d'autres personnes, là, on peut commencer à avoir des problèmes. C'est-à-dire que notre volonté peut s'exercer, comme on disait tantôt là, tout seul, mais il peut s'exercer par rapport à d'autres personnes. Okay? Et un des éléments qui sont, comment je pourrais dire, extrêmement difficiles, c'est lorsque on commence à que la volonté de quelqu'un vient interférer avec l'autre. Okay? Donc, la volonté de quelqu'un va venir s'exercer sur quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on arrive, qu'on doit dire maintenant qu'on doit se soumettre à une volonté, bien là, on commence à avoir des problèmes. Okay? Il y a des choses qui sont relativement, je pourrais dire, faciles. Faciles, entre guillemets. Là. Par exemple, un client de quelqu'un est là et vient lui proposer du travail. C'est sûr que la chose qu'on veut, c'est faire la volonté du client. Parce que c'est ça notre job et c'est ça qui va nous donner encore du travail. Il y a une volonté, par exemple, des militaires. Lorsqu'on donne un ordre, on doit suivre. C'est quelque chose qu'on apprend. Puis c'est quelque chose qui est limité. Mais lorsqu'on commence à entrer dans nos vies, nos affaires intimes, c'est un petit peu plus dur. Et je me souviens, je ne sais pas si que vous avez suivi la série qui s'appelait les Tudors, l'histoire de Henri VIII. À un moment donné, on voit les gens parler, puis, tu sais, les sujets là, du roi, leur plaisir, c'était de faire sa volonté. T'sais. Et puis, il était un petit peu spécial, le gars. Donc, lorsqu'on regarde ça, tu dis, si j'étais là dans ce temps-là, comment je trouverais ça, faire la volonté du roi? Maintenant, si on considère l'autorité suprême, Dieu, on doit faire sa volonté. Mais je pense que tout notre côté rebelle, notre côté de pas vouloir se soumettre est toujours présent lorsqu'on fait face à cette situation-là, le besoin de faire la volonté de Dieu. Alors, comme je disais, le sujet est un petit peu gros, là. Et comment je pourrais dire, on pourrait l'aborder de toutes sortes de façons. Et à un moment donné, j'en parlais un petit peu avec Benoît, toujours en rapport avec le message. Puis là, il commence à me parler de la volonté permissive de Dieu. Là, tu sais, wow. On ne va pas rentrer là-dedans. Là. Je ne vais pas rentrer dans un côté théorique. Là. Je vais juste considérer deux points, deux éléments que je trouve que l'on a lorsque les chrétiens parlent de la volonté de Dieu. Lorsqu'on a ce sujet-là, il y a deux éléments que je veux considérer. Une des choses, c'est qu'il y a des gens qui se demandent, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Et puis là, ils deviennent complètement, comment dirais-je, mal. Ils ne savent pas si ce qu'ils font, c'est la bonne chose. Et puis, ils peuvent être, comment dirais-je, ils peuvent se ruiner la vie à penser, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Donc ça, c'est un premier point, un des points que je vais aborder. Et aussi, ces personnes-là, lorsqu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils se demandent, est-ce que le geste que j'ai posé, est-ce que le choix que j'ai fait, on dirait qu'ils pensent que c'est, ils vont presque, comment je pourrais dire, Dieu va être mal pris avec le choix qu'ils ont fait. On dirait que, étant donné qu'ils ont fait ça, là, tout va revirer à l'envers, et puis Dieu est mal pris finalement avec le geste qu'ils ont posé. Le deuxième point que je veux regarder, c'est l'autre extrême. C'est que quelqu'un cherche à se convaincre, à tort, la plupart du temps, que dans les Écritures, il y a quelque chose qui va justifier une décision qu'ils ont prise, un choix qu'ils ont fait. Donc, ce sont ces deux éléments-là que je voudrais considérer pour cette chose. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va lire un passage. En fait, je vais lire beaucoup de passages dans la Bible. C'est pourquoi j'ai mis ça sur PowerPoint. D'habitude, je ne fais pas ça. On va lire beaucoup. Je vais lire un passage et on va se demander, est-ce que c'était quoi la volonté de Dieu dans ça? Puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'il en est, comment on peut se tromper ou pas se tromper, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela. Donc ça va être 1 Samuel 8, versets 1 à 9. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba et les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Samuel prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. » Donc, la question qu'on va se poser, et je pense qu'on peut voir assez évident, là, est-ce que c'était la volonté de Dieu d'établir une monarchie en Israël. Lorsqu'on regarde ça, c'est comme dit non. Le peuple veut rejeter Dieu. Il ne veut pas que Dieu règne sur lui. Alors, comment peut-on dire, comment on peut essayer de trancher la question? Est-ce que c'est sa volonté ou pas? Est-ce que, si on regarde strictement ce texte-là, on dirait non, c'est pas ça. Donc, ça voudrait dire finalement que le peuple a forcé la main de Dieu et puis Dieu a été mal pris. Essayons de voir si c'est bien ça. Donc, on va lire un autre passage parce que c'est à partir de la parole de Dieu qu'on peut voir si ce qu'on voit, c'est bien la volonté de Dieu. Donc, on va aller voir un autre passage qui va nous montrer, qui va nous éclairer en quelque sorte. C'est lorsque Jacob a béni ses fils au moment où il allait mourir. Donc Jacob était en Égypte, ses fils étaient autour de lui, il les a appelés pour qu'ils puissent leur dire ce qui va se passer pour eux. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. » Alors vient le tour de Judas. « Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie le genou, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Oh! On a reculé pas mal, hein? Et de quoi il est question ici? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. C'est quoi un sceptre? Le sceptre, c'est une espèce de bâton qui est le symbole de l'autorité du roi. Et le texte nous dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. C'est-à-dire que Judas sera au-dessus de ses frères. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Et plus que ça, le terme Shiloh, un petit peu bizarre, on va essayer de voir comment c'est dit dans le Shema. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. C'est-à-dire qu'ici, ce terme Shiloh-là, tout le monde pense que c'est le Messie que ça veut dire, que ça représente. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis les temps, les rabbins ont toujours considéré que c'est le Messie que c'est. Donc, ce que nous dit ici, c'est que Judas va régner sur Israël. Et non seulement il va régner sur Israël, ça va être ce qui va préparer la venue du Messie qui, lui, va régner sur tous les peuples. Donc, on commence à se dire, est-ce que c'est encore vrai qu'on peut dire, non, ce n'était pas la volonté de Dieu que qu'il y ait un roi en Israël, qu'il y ait des rois, que la monarchie soit là. Là, on commence à avoir des doutes. Continuons. On va aller maintenant dans Deutéronome. On est encore assez loin avant le temps de Saül. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu posséderas et que tu y rétabliras ta demeure et que tu diras, « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. » Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner à un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône, le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Ça devient de plus en plus clair que la monarchie n'est pas arrivée par hasard. C'était préparé d'avance. Parce que non seulement Dieu dit comment le monarque doit se comporter, mais il le fait pour qu'il puisse bien faire son travail. Donc, la monarchie semble être tout à fait dans les plans de Dieu. Et si on continue, si on se rend finalement plus loin au niveau de l'accomplissement, lorsque David voulait parler, il voulait construire une maison, il en a parlé à Nathan, et Nathan a consulté Dieu pour lui, et Nathan rapporte ce que Dieu veut de David. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu auras auprès de tes pères, que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. C'est lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai retirerai point ma grâce comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. J'ai lu pas mal, là, puis j'ai encore un texte, mais je pense que je vais passer par-dessus. Donc, on est là. C'est sûr que et Dieu n'a pas été mal pris face à la demande d'Israël. C'était préparé de longue date qu'il veuille avoir un roi. Donc, on pourrait dire que la monarchie en Israël était bien la volonté de Dieu. Donc, maintenant, on va revenir à la question, au point de départ. Et là, je vais considérer les deux points que je voulais mentionner. D'abord, lorsqu'on fait quelque chose qui ne semble pas être la volonté de Dieu, est-ce que c'est irréparable? Je vais avancer assez rapidement. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr, par rapport à ce que Israël a fait lorsqu'il a demandé un roi. Parce que Dieu a dit, ils m'ont rejeté. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est irréparable? Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Parce que Saül a été établi roi. Donc, je fais un grand saut, un autre saut, là, je fais des sauts d'un bout à l'autre. Là. On a demandé un roi à Samuel. Dieu lui a dit, voici, c'est Saül qui va être roi. D'accord? Saül est devenu roi, mais ça n'a pas marché. Et là, Samuel est dans la situation, qu'est-ce qui se passe? Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On est mal pris. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Et je pense que c'est extrêmement important qu'on voit ça, c'est que Dieu n'est pas mal pris, quels que soient les actes qu'on a posés. Israël a décidé de demander un roi. Israël a rejeté l'Éternel. Il ne voulait pas qu'il règne sur lui. Et Israël a demandé un roi. Ce n'était pas facile pour Israël. Tous les peuples avaient des rois. Et puis, eux autres, ils ont des juges qui, de temps en temps, arrivaient, pouf, un juge. Après ça, ça disparaît. Puis, il y a un autre problème qui se passe, hop, un autre juge arrive. Et puis, c'est un petit peu chaotique dans le temps des juges. Donc, ils ont demandé ça, mais ils ne voulaient pas finalement que Dieu règne sur eux. Et ils ont pris cette décision-là. Puis là, Samuel est mal pris. Il dit, qu'est-ce que je fais? Alors, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » C'était le point. Qu'est-ce qui peut se faire maintenant? Il dit, « Remplis ta corne d'huile, va et je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Dieu avait une solution. Dieu ne peut pas être mal pris par ce qu'on fait. Dieu est capable de prendre soin de nous lorsque on s'est mis dans le pétrin. Vous avez, quel que soit ce qu'on fait, on sait une chose, c'est que si on retourne auprès de Dieu, puis qu'on lui demande pardon, il va s'occuper de nous. J'ai fait un petit décompte, vous savez, c'est intéressant lorsqu'on a l'informatique. J'ai cherché l'endroit où il dit Dieu est miséricordieux et sa miséricorde dure à toujours. Excusez-moi. J'ai trouvé ça 41 fois dans le texte de l'Ancien Testament. Sa miséricorde dure à toujours. Et il y en a particulièrement dans le psaume 136, c'est dit 26 fois. Car sa miséricorde dure à toujours. Quel que soit ce qu'on a fait, Dieu est assez miséricordieux pour qu'il s'occupe de nous, qu'il ne nous écrase pas. Le deuxième point que je voulais considérer, c'est de dire, on peut tordre la parole de Dieu, on peut chercher partout pour essayer de trouver un texte qui va nous justifier. Et c'est quelque chose qui arrive souvent, que quelqu'un arrive et dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a telle chose que je dois faire. Ou bien, j'ai fait ça, et puis c'est ça qui m'a montré que je dois faire. Des fois, on se demande, comment ça se fait que ça se dit? Alors, moi, je vois dans ce qu'on vient de voir là, finalement, une démonstration de ce que les gens d'Israël auraient pu faire pour justifier qu'ils ont demandé un roi. On vient de voir que c'était dans le plan de Dieu qu'il y ait un roi en Israël. Donc, le peuple pourrait dire, on est tout à fait justifié de dire, on veut un roi. Or, Dieu vient de dire, ils m'ont rejeté. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. C'est quoi le problème? C'est que le modèle n'est plus le modèle que Dieu a mis devant eux. On se détourne de Dieu et on va regarder chez les nations, puis on dit c'est ça qu'on veut. Comme je le disais tantôt, là, la situation d'Israël était dure. Il y a, à un moment donné, pendant tout le temps des juges, là, c'était chaotique. Tu sais, c'est dit à un moment donné, il n'y avait pas droit. Chacun faisait comme bon lui semblait. C'était chaotique. C'était pas facile. Donc, lorsque vous avez, dans le temps d'Élie, les fils d'Élie n'ont pas agi trop comme il faut. Samuel est arrivé. Là, les fils de Samuel arrivent, puis ils recommencent le même pattern. Ça ne marche pas. Ils ne se tournent pas vers Dieu pour demander « Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? » Ça ne marche pas. Ils ont dit « Dieu, là, ce qu'il nous donne, c'est pas, ça ne marche pas. Voici le modèle qu'on veut. » Donc, la question n'était pas de dire « Est-ce que c'était la volonté de Dieu d'établir une monarchie? » Oui, ça, c'était la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui n'était pas la volonté de Dieu? C'était de dire qu'il y ait un roi comme les autres nations. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a donné un roi comme les autres nations. Lorsqu'on lit le texte, puis qu'on décrit Samuel et qu'on décrit Saül, qu'est-ce qu'on dit? Il les dépassait tous d'une tête. OK? Oh, je pense à lui. Oh, à toute la famille! Oh, tiens, il dépasse d'une tête, là. OK? Donc, c'était l'allure d'un roi. Je m'excuse, hein, je ne voulais pas... Mais il avait dit ça, par exemple. Il était allé se cacher. Mais en réalité... Donc, mais vous avez, voyez-vous, il a pris un homme qui était d'une grande stature. C'est-à-dire un gars qui se présente bien. Un gars qui fait un bon roi comme les autres nations. C'est-à-dire, lorsque ce roi-là arrive sur le champ de bataille, ben, il en impose. C'est ça que vous voulez? C'est ça que je vous donne? OK. Donc, Dieu leur a donné exactement ce qu'il voulait. Et si on continue, c'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. Ils ne voulaient plus avoir la domination de Dieu sur eux. Lorsque on a dit tantôt qu'il y avait la solution de Dieu, Dieu va choisir maintenant et David comme roi. Qu'est-ce qu'il était, David? Rien du tout, hein? Rien du tout, parce que lorsque Samuel est arrivé en ville, il a dit, dit à Isaïe, je veux que tes fils viennent là. Parce qu'il voulait choisir le roi. Et ils savaient que c'était dans la famille d'Ésaïe. Il est arrivé et Ésaïe a présenté ses fils. Et il n'était pas là. Il était rien du tout. Il était le petit gars qui gardait les moutons. Donc, on voit que c'est pas le même choix. Donc, on voit la volonté de Dieu, c'est que Dieu choisit l'homme qu'il veut mettre sur place. La volonté des hommes, c'est « je veux avoir un roi comme les autres, un gars grand et fort ». On voit toute cette différence-là. Maintenant, question pratique, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment peut-on faire la volonté de Dieu? En fait, comment peut-on faire la volonté de quelqu'un? C'est quoi la première chose qu'on a besoin? Savoir c'est quoi sa volonté. si on ne sait pas, c'est comme évident, hein? Des fois, on va penser à tout à fait, mais c'est quoi sa volonté? Donc, finalement, il faut qu'on aille chercher où se trouve sa volonté. Il faut qu'on aille de façon systématique aller lire la Bible. C'est la place où Dieu a consigné toute sa volonté. Bien entendu, comme j'ai dit tantôt, on pourrait lire la Bible puis la détourner complètement. On pourrait la massacrer, lui faire dire tout ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas lire la Bible. Il faut lire la Bible en priant et en se soumettant à l'Esprit de Dieu. Tu sais, il y a quelque chose qu'on regarde, un texte qu'on répète tellement souvent. « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que lorsqu'on dit ça, c'est ce qui va se passer si on fait de l'Éternel nos délices, c'est que l'Éternel va mettre dans nos cœurs ce qu'on doit désirer. Qui va mettre dans nos cœurs ce qu'on doit rechercher. Et comme ça, faire la volonté de Dieu ne sera pas un fardeau, ce ne sera pas un problème. Un autre élément qu'il y a lorsqu'on parle de la volonté de Dieu et qu'on ne détourne pas, si on veut, la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'on veut, c'est qu'on doit voir quelles sont nos motivations lorsqu'on pose un geste. Les motivations du peuple étaient d'avoir quelqu'un comme les autres rois, un roi comme les autres nations. Prenons le fameux exemple où on voit le même acte qui est bien ordinaire et un acte qui est un péché que Dieu punit de mort. C'est dans le livre des Actes, lorsque Ananias et Saphira ont vendu leur champ et ils ont apporté une partie de l'argent. Est-ce que c'est un acte irrépréhensible? Non. Ils pouvaient ne pas vendre le champ. Ils pouvaient le vendre et le garder tout l'argent. Ils pouvaient le vendre et donner une partie de l'argent. Ils étaient complètement libres de faire tout ce qu'ils pouvaient. Mais qu'est-ce qui était le péché là-dedans? C'était la motivation. Qu'est-ce qu'ils désiraient lorsqu'ils ont apporté une partie de l'argent aux apôtres? C'est de faire croire qu'ils donnaient ça de bon cœur. En réalité, ils voulaient juste paraître. Donc, la motivation, je pense que c'est l'élément clé lorsqu'on fait quelque chose. On pose la question, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? C'est quoi notre motivation? Pourquoi je pose ce geste-là? Quel que soit ce qu'on fait, l'élément le plus important, c'est de dire pourquoi je le fais. C'est quoi mon but Qu'est-ce que je veux là-dedans? Et chaque élément là va nous dire qu'est-ce que on doit faire. Un texte, un verset bien connu parce qu'on le chante. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Bien connu, hein? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. La relation qu'on a avec les gens autour de nous. Quelle sorte de relation on a avec toutes les personnes qui sont autour de nous? La justice et la miséricorde. Que tu marches humblement avec ton Dieu, c'est notre relation avec Dieu. Lorsque je pose un geste quelconque, quelle est la part que je mets pour Dieu là-dedans? C'est quoi? Comment je vois Dieu là-dedans? Tu sais, il y a des questions genre difficiles. Est-ce que ce gars-là ou cette fille-là, c'est la personne avec qui je dois me marier? C'est-tu la volonté de Dieu que je fasse ça? C'est quoi notre motivation? C'est quoi? Comment notre relation avec Dieu va être au moment où on va être avec cette personne-là? Est-ce que Dieu va être mis de côté? Ou est-ce que Dieu... Que la personne va nous aider à être avec Dieu, à servir Dieu, à être en communion avec lui. C'est quoi la motivation qu'on a dans chaque petit geste qu'on pose? Toute la fois qu'on a une question, c'est où est-ce qu'on place Dieu là-dedans? Il faut qu'on marche humblement avec notre Dieu. C'est là-dedans que je pense que notre relation, nos gestes, tout ce qu'on veut faire, tout va dépendre de ça. Et avec ça, Dieu va nous conduire, nous bénir. Et puis, lorsqu'on marche comme ça avec lui, il fait tout ce que notre cœur désire. Prions. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous te disons merci, Seigneur, pour ces passages qu'on a étudiés, Seigneur. Père, que nos cœurs puissent avoir la bonne motivation lorsqu'on agit, Seigneur. Qu'on puisse, Père, regarder, voir c'est quoi qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut te donner gloire? Est-ce qu'on veut t'élever? Est-ce qu'on veut te servir? Ou est-ce qu'on veut notre propre bien, s'occuper de notre propre personne et te mettre de côté? Seigneur, apprends-nous à bien te laisser conduire nos vies et te laisser remplir nos cœurs de ta personne. Père éternel, sois loué et béni. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen.